Mes bien chers amis, trop de gens sont enclins à vouloir atténuer le caractère pourtant pervers du communisme. Le communisme n'est pas seulement un système économique, pas seulement du collectivisme, de l'étatisme. Tout cela est déjà mauvais, très mauvais, contraire aux aspirations de la personne humaine. Mais le communisme est aussi athée, pas seulement ignorant de Dieu, mais anti-Dieu, prenant tous les moyens, même brutaux, même assassins, pour essayer de détruire toute croyance religieuse. Pour éteindre la religion dans les pays qu'il domine politiquement, le communisme s'applique particulièrement à supprimer, à emprisonner les évêques et les prêtres, espérant que, privés de leurs pasteurs, privés de l'enseignement religieux, privés du culte, privés des sacrements, les fidèles finiront par perdre toute foi en Dieu. Cette persécution au XXe siècle, disposant de toutes les techniques modernes pour poursuivre ses fins sataniques, dépasse en efficacité tout ce qu'ont fait les grandes persécutions des premiers siècles de l'Église. Elle a d'ailleurs fait plus de victimes que toutes celles-là ensemble. On n'y pense pas assez. Noyés que nous sommes dans le flot de propagande de toutes sortes, trompeuses et souvent mensongères à dessein des grands journaux, de la radio, de la télévision, des tribunes publiques. Je vais vous citer quelques notes prises dans un journal français donnant une idée de la situation faite à l'Église du silence dans les pays derrière le rideau de fer. Il n'y est pas question de la Chine, rien que de pays européens sous la dépendance de Moscou. Et encore, même cette liste est incomplète, mais elle a déjà de quoi émouvoir toute âme bien née. En Estonie, un des pays baltes, toutes les églises sont fermées. Il n'y a plus d'évêques. En 1960, il n'y restait qu'un seul prêtre. En Lettonie, autre pays balte, avant l'occupation russe de 1945, il y avait dans ce pays 500 000 catholiques, 200 églises, 6 évêques, 187 prêtres catholiques. 50 de ces prêtres ont été massacrés dans des conditions horribles. 40 autres sont en exil et on est sans nouvelles absolument des autres. Toutes les églises sont fermées, l'enseignement de la religion catholique y est interdit. La Lituanie, le troisième pays balte, en 1940, elle comptait 2,5 millions de catholiques avec 900 églises, 13 évêques, 1,500 prêtres. La hiérarchie, c'est-à-dire les évêques et le clergé, ont été supprimés. Les églises ont été nationalisées, sont devenues propriété de l'État. La Roumanie comptait, en 1940, 3 millions de catholiques avec 3,795 églises, 12 évêques, 3,331 prêtres. Mais 40 ans plus tard, en 1960, plus un seul évêque dans ce pays. L'évêque auxiliaire de Bucarest a été tué à coups de hache. Trois autres évêques sont morts en prison, dont l'un, Mgr Sisiu, a 43 ans, des suites d'une interrogatoire à la communiste par la police. Les 8 autres évêques sont dans des camps de concentration. 200 prêtres et religieux sont aux travaux forcés. 200 autres en prison. 250 ont disparu. Il n'y a plus rien. Le culte n'est célébré que clandestinement, en secret. En Yougoslavie, le pays de Tito, il y avait, en 1940, un cardinal, 19 évêques, 4,500 prêtres. Le cardinal, c'est Mgr Stepinac, qui est mort en 1960 en résidence surveillée, c'est-à-dire sous les yeux constants de la police communiste. L'évêque de Ljubljana, Mgr Vosk, a survécu à son supplice. La foule, excitée par les communistes, avait voulu le brûler vif. Un évêque est mort en prison, un autre en exil, un autre est aux travaux forcés, 3 sont en résidence surveillée. 30 prêtres ont été tués, la plupart jetés à l'eau. 200 sont détenus, 500 sont exilés. Qu'est-ce que c'est qui reste? En Bulgarie, il y avait 55 000 catholiques dans ce pays qui est surtout orthodoxe ou musulman. Il y avait aussi 3 évêques, 127 prêtres. Un des évêques a été condamné à mort et exécuté en 1952. Les deux autres sont aux travaux forcés. Sur les 127 prêtres, il ne reste plus que 20 survivants. L'Ukraine. 4 millions de catholiques. En 1940, ce pays comptait 4400 églises, 10 évêques, 3460 biprêtres. Un des évêques, Mgr Ramza, a été passé sous un camion de l'armée rouge. Un autre, Mgr Slipier, après un long terme de prison, n'a été libéré que l'an dernier et à condition de sortir du pays. Il est aujourd'hui à Rome et le pape Jean XXIII, en le recevant, n'a pu s'empêcher de pleurer. Les 8 autres évêques de ce pays sont aux travaux forcés. Toutes les églises sont fermées. Le culte ne se célèbre que dans le secret, dans la forêt des Carpates. La Hongrie, on connaît le sort de ce pays, en grande majorité catholique. Son primat, le cardinal Mindenti, a été sorti de prison par les patriotes en révolte en 1956. Mais lors de l'écrasement de cette révolte, il a dû se réfugier à l'ambassade américaine, où il est comme en prison, car s'il sort, il est ramassé par la police et remis en prison à laquelle il a été condamné pour la vie. 400 de ses prêtres sont en prison. 733 autres n'ont échappé qu'en émigrant. Pologne. La catholique Pologne a vu 3 de ses évêques mourir en prison. 4 autres sont déportés en Sibérie. 9 autres sont détenus. C'est donc un total de 16 évêques enlevés à leur diocèse. Parmi ces prêtres et religieux, 94 sont morts en prison, 870 autres sont encore en prison, 550 déportés, 260 disparus, 1200 exilés. Voilà comment la Pologne a traité ses prêtres. En Russie même, pays majoritairement de l'Église orthodoxe et sous la botte communiste depuis 1917, il restait tout de même encore, en 1940, 900 églises ouvertes au culte catholique, desservies par 900 prêtres catholiques. En 1960, il ne reste plus que 4 églises et 5 prêtres catholiques. 4 sur 900, 5 sur 900. L'Albanie, un petit pays, l'archevêque de Durazzo est mort en prison. De ses prêtres, 30 ont été fusillés ou massacrés ou sont morts en prison et on ignore le chiffre des disparus. Toutes les églises de Géorgie, sauf 6, sont fermées. Les prêtres sont envoyés aux travaux forcés. Il ne reste plus un seul évêque ni un seul prêtre en Arménie. Peut-être, mais on ne sait pas, s'y trouve-t-il quelques prêtres cachés. Ce tableau, mes chers amis, vous donne une idée incomplète de ce qui est arrivé. Il ne mentionne que les évêques, les prêtres et les églises, mais il y a aussi les catholiques laïcs, et eux aussi ont subi des persécutions de toutes sortes. Discrimination dans l'emploi, affamation, emprisonnement, exil, camp de concentration, exécution. Le tableau couvre la période de 1940 à 1960, c'est-à-dire depuis que nos pays ont proclamé comme but de leur entrée en guerre la défense de la civilisation et de la chrétienté. On en a fait une belle défense de la chrétienté, n'est-ce pas? On voit aussi que la mort de Staline, arrivée en 1953, n'a point du tout signifié la fin de la persécution religieuse dans les pays asservis par Moscou, puisque la situation que je vous cite est de 1960. Les alternances de sourires et de coups de poing ou de coups de souliers de Khrouchtchev n'ont point du tout libéré les victimes des geôles et des camps de concentration. Et encore, nous avons mentionné que les pays satellites de la Russie, qui sont rien que la partie catholique, il y a aussi dans ces pays-là un grand nombre de chrétiens orthodoxes. Les évêques et les prêtres orthodoxes sont, comme les nôtres, de véritables évêques, de véritables prêtres. Les évêques orthodoxes descendent, comme les nôtres, des apôtres par la consécration. Ils sont schismatiques, c'est vrai, séparés d'Église catholique parce qu'ils refusent de reconnaître la suprématie du pape, mais ils ont les mêmes sacrements que nous. Leur messe comprend la même transsubstantiation du pain et du vin au véritable corps et sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont donc la même véritable communion. Ils ont aussi conservé un grand culte envers la très sainte Vierge Marie. Eh bien, ces chrétiens d'église orthodoxe, qui sont en majorité dans ces pays-là, ont eux aussi subi la persécution. Ils n'y échappent pas, même sous le règne de Khrouchtchev. Dans la seule année 1960, donc sous Khrouchtchev, plus de 500 de leurs églises ont été fermées au culte à la suite de l'audace qu'avait eue le patriarche Alexis, un évêque orthodoxe de 84 ans, de dénoncer publiquement à la face du Kremlin les attaques du régime contre le christianisme. Pour empêcher le recrutement du clergé, les séminaires et les facultés de théologie sont soit fermés, soit limités dans le nombre de séminaristes qu'ils ont le droit d'accepter. Ainsi, le séminaire de Leningrad, pourtant le plus important de tous, n'a droit qu'à 8 séminaristes. Il ne faut pas confondre, mes chers amis, le peuple russe avec son gouvernement, ni avec le Parti communiste. Le parti est en minorité, mais il tient le pouvoir. C'est pour ça qu'il écrase le reste de la population. Une bonne partie de la population reste attachée à sa religion, même si elle ne peut pas le manifester. Elle ne se soumet que sous la force. Par exemple, en 1960, apprenant que la cathédrale de Kiev, en Ukraine, serait fermée, des fidèles se sont barricadés à l'intérieur et l'ont occupée durant toute une semaine. Finalement, la troupe est intervenue, a arrêté les manifestants, les envoyant en prison ou dans des asiles d'aliénés, et cela sous le régime de Khrouchtchev. D'ailleurs, ce même Khrouchtchev, avant d'être le maître de la Russie, a été pendant des années le bourreau de l'Ukraine sous le règne de Staline. Ces notes, mes chers amis, seront publiées dans le journal Vert demain. Pourquoi? C'est pour secouer un peu notre indifférence, notre apathie, notre embourgeoisement, l'égoïsme dans lequel vivent trop de catholiques de notre pays encore libre. C'est aussi pour nous faire mieux connaître le vrai, le hideux visage du communisme, alors que non seulement la littérature soviétique, mais même des journaux de chez nous, des favoris de la radio et de la télévision, des retours de Moscou, s'évertuent systématiquement à vouloir présenter le communisme comme acceptable ou même attrayant. Le communisme, disent-ils, n'est pas si pire. Il y a du bon dans le communisme. La Russie nous donne bien des exemples, etc., etc. C'est aussi pour nous faire penser à nos frères chrétiens qui souffrent, qui gémissent des années et des années dans des prisons ou aux travaux forcés, quand ce n'est pas la mort même qui leur est imposée pour leur foi. Pour cette foi qui est aussi la nôtre, mais pour laquelle nous faisons si peu et si tièdement. Ils expient pour nos lâchetés. Allons-nous les oublier et allons-nous rester lâches?
Mes amis, nous venons d'entendre le journal Vers demain nous donner son quart d'heure hebdomadaire. C'est M. Évin qui nous a parlé tout à l'heure. Le journal Vers demain vous invite à venir avec lui faire la lutte sur tous les fronts, une lutte politique pour obtenir un monde meilleur. Venez, venez nous aider. Faites-vous membre de notre mouvement. Écrivez-nous pour nous encourager. Nous avons besoin de vous. Nous ne sommes pas capables de nous battre tout seuls.